Salut tout le monde, bienvenue dans l'actu des ados, la seule émission pensée, créée et présentée par des ados. Alors, aujourd'hui je suis accompagné de mon fidèle acolyte Alexandre.
Bonjour à toutes et à tous et à tout le monde de la France profonde, je vous salue.
Salut à toi Alex. Et je suis aussi accompagné de deux invités, une sociologue, Christine, bonjour à toi.
Oui, bonjour.
Et d'un historien de religion, Mansour.
Bonjour.
Bonjour à vous. Donc, au sommaire aujourd'hui, pour le premier sujet, nous allons parler de la laïcité. Est-elle non respectée en France ? C'est avec ces deux invités et Alexandre que nous allons débattre de ça. Et pour le sujet numéro 2, les pubs nana. Principalement la dernière pub. Le non-respect des femmes. Est-ce que cela ne respecte pas les femmes ? Nous aurons également les deux invités pour débattre de cela.
Accessoirement.
Ça promet une belle émission. Sur ce, on commence tout de suite avec la revue de presse.
Et oui, dans cette revue de presse, merci Baptiste pour ce joli sommaire. Et c'est cool que tu présentes l'émission comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est vrai, vous l'avez remarqué, on a échangé. C'est moi qui présente
c'est,
Alexandre.
C'est la première fois que tu fais ça, merci beaucoup.
Il n'y a pas de problème.
C'est pas mal, c'est pas mal. Du 18 au 20 octobre se tenait le Salon de l'Automobile pour la 7e année consécutive. Alors nous, on y est allé pour la première fois. On est allé faire notre petit tour idéal pour comparer les modèles et discuter tout simplement avec les professionnels. Donc ça se tenait au Parc Expo de Rouen. C'est 600 occasions, 60 marques pour 20 000 m². Et bien sûr, on a titillé un peu, moi et Baptiste, en tant que journaliste reporter. On est allé les voir et on leur a dit, pour la question écologique, est-ce qu'on fait de plus en plus de véhicules écolos, etc., par rapport aux nouveautés, quoi.
Aujourd'hui, le marché de l'électrique se développe énormément. Surtout, les précurseurs, c'est La Poste. La Poste ont acheté 400 INV 200 cette année. Et la curiosité, les modes de fonctionnement aussi, ça change. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se développe beaucoup.
D'accord. Et puis par rapport aux SUV, c'est pas trop votre truc, mais pensez-vous que les gens vont acheter de plus en plus de SUV à cause des réglementations maintenant françaises qui un peu augmentent les prix de tout ce qui est SUV ?
Oui. C'est sûr que quand on voit qu'il y a certains véhicules, là, comme certains pick-up où les cartes grises coûtent 8 500 € et qu'on en fait cadeau sur un véhicule électrique, évidemment que les façons d'acheter, ça va. Enfin, c'est sûr que les gens vont être obligés d'aller un peu dans ce segment-là électrique. Et puis, c'est un peu précipité. Je trouve que l'État y va un peu vite, mais à la limite, c'est aussi bien parce qu'aujourd'hui, on a besoin de changer nos habitudes. Et ils font de très bonnes choses en électrique, donc autant en profiter. Quoi. C'est vrai que
l'électrique, c'est l'avenir alors.
Oui. Là, il faut il faut regarder le côté de notre planète. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui. C'est important de faire attention à ça et il faut rouler en électrique.
C'est plus cher ou c'est moins cher par rapport on fait plus d'économies quand on a un véhicule électrique ?
Oui, c'est un peu plus cher à l'achat. Maintenant, il y a des aides de l'État, même des aides de la région. Aujourd'hui, en Normandie, il y a la métropole qui vous donne 2 000 € supplémentaires à l'aide nationale qui est de 6 000. Donc, c'est un peu plus cher à l'achat. Par contre, ça vous coûte entre 2 et 3 euros pour 100 km. Le coût d'utilisation. Une révision, c'est moins cher. Il n'y a pas beaucoup de pièces mécaniques à remplacer. Donc, c'est un investissement au départ. En retour, les frais d'utilisation sont quand même beaucoup moins élevés. Quoi.
Non, on est transformateurs. Donc, on transforme les motos en 3 roues. Le but de ces transformations-là, c'est d'apporter sur la moto la sécurité et de permettre de la conduire avec le permis B.
D'accord.
Donc, tous les véhicules transformés, tout ce qui est tricycle, se conduit avec un permis de voiture à ce moment-là.
Mais ça permet à l'automobiliste de ne pas passer son permis moto, mais en soi, ça ne coûte pas plus cher de rénover une moto et puis que de passer son permis moto.
C'est pas là la problématique. La problématique, c'est d'aller sur un véhicule plus sécuritaire qui touche des gens qui trouvent la moto trop lourde ou des gens qui ont un handicap ou la jante féminine. Pour laquelle une grosse moto de 400 kg devient dangereuse ou trop lourde. Donc à ce moment-là, on apporte la sécurité et ce qui permet de continuer à rouler en moto, d'avoir le même plaisir en 3 roues.
Donc vous faites des véhicules qui sont uniques en soi, en fait.
Oui, parce qu'il n'y a pas de série. C'est chaque moto que l'on transforme est unique, oui.
Ce genre de véhicule, ça peut être écologique ? Des véhicules, par exemple, qui ne roulent pas à essence ? Alors, électrique.
À aujourd'hui, seule la Goldwyn peut être équipée à l'éthanol, donc tourner à l'éthanol. Mmh. Hein, et autrement, il y a le projet d'avoir des véhicules électriques à partir de 2020.
C'est quoi ? Non, c'est pas très écolo, mais on n'est pas ici pour faire des voitures écologiques.
Et oui, comme vous avez entendu ce monsieur, nous ne sommes pas là pour faire des voitures écologiques. D'ailleurs, on était juste à côté de la dernière Ferrari, Baptiste.
Tout à fait.
Tu t'en rappelles, et ceux qui sont sur Béaba, la voie, d'ailleurs, elle était magnifique. Et on a discuté avec son propriétaire qui dit, de toute façon, le jour où on fera des Ferrari non polluantes, ce ne sera plus des Ferrari. Allons bon. Encore une mobilisation pour le collectif Lubrizol. D'après la police et la préfecture, 500 personnes se sont réunies et étaient dans la rue encore une fois, malgré l'ambiance entre guillemets bon enfant. Les Rouennais demandent encore et toujours des réponses aux gouvernementaux.
Dans plusieurs buts, dans le but de vous représenter tous autant que vous êtes.
Toujours à la police scientifique pour aller sur les lieux, on comprend pas trop. Et nous, on n'a pas ce temps-là devant nous. Pour juger des gens qui ont déjà 60, 70 piges dans 10, 15 ans, ça ne sert à rien. On veut que les responsables ils soient mis là, maintenant, devant leurs responsabilités. Ça prend pas très longtemps pour dire que des toits en amiante sur des sites Céveso, c'est hors la loi et que c'est criminel.
Et vous, du collectif Lubrizol, Emmanuel Macron va bientôt passer à Rouen. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire aujourd'hui, si vous aviez un message à lui faire passer, lui qui va bientôt venir à Rouen?
J'aimerais bien qu'il vienne s'installer là pour, on va dire, 2 ans, par exemple, hein, qu'il prenne une chambre à l'hôtel, hein, ce qu'il veut. Il vient s'installer ici pendant 2 ans, et puis dans 2-3 ans, on en reparle, on voit si c'est pas toxique. Parce qu'apparemment, il est sûr de lui quand même. Hein. Enfin, lui, personnellement, on n'a pas fait trop de déclarations là-dessus, mais en tout cas, il a l'air de donner une ligne de conduite à son gouvernement qui font qu'ils sont sûrs d'eux. Puisqu'ils sont si sûrs d'eux, mais qu'ils viennent ici. Mais qu'ils ne viennent pas 1 heure en hélicoptère, ça ne sert à rien, c'est complètement stupide. Qu'ils viennent, qu'ils restent quelques mois, quelques années, ensuite on en reparle. Il faut vivre ici pour le comprendre, ça, je pense.
Vous pensez qu'il y a une hypocrisie de la part du gouvernement ?
Énormément. Il y a une grosse hypocrisie. Au départ, effectivement, des fautes de la part du préfet qui a mal géré sa communication, qui a mal géré la crise. Bon, c'est pas pardonnable. C'est clair, c'est pas pardonnable. Mais au-delà de ça, après, il y a ses supérieurs. Il y a ses supérieurs, et j'entends pas forcément M. Castaner. Je prends l'exemple, par exemple, de M. Guillaume. Vous voyez, je vais nommer les gens. Si on parle de M. Guillaume, le ministre de l'Agriculture, quand vous savez qu'à la première commission de transparence qui a eu lieu, ce monsieur, 5 minutes avant la conférence de presse, dit à M. le préfet « Ah, on aura les résultats pour le lait dans 72 heures ». Donc au moment de la conférence de presse, 5 minutes après seulement, le préfet, lui, va dans ce sens, ce qui est logique. Pour une fois, là, pour le coup, il est logique. Et là, M. Guillaume, il fait « Ah non, M. le préfet, c'est maintenant, on l'enlève maintenant ». Forcément, M. Durand se trouve bête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui aussi est une marionnette quelque part, c'est un simple fusible dans ce grand échiquier médiatique, enfin politique, je veux dire. Et c'est inadmissible. Et moi, j'ai l'impression aujourd'hui, alors c'est une opinion personnelle que je vais vous donner là, hein, ça ne reflète pas forcément l'opinion publique, quoique, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas M. Macron qui est au pouvoir dans ce pays, mais M. Buffett. C'est lui qui nous dirige, parce qu'il dirige M. Macron par le bout du nez avec son pognon. Donc là, il y a quand même des questions à se poser.
Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, le détail, on le saura dans l'enquête judiciaire. Là, pour l'instant, on ne sait pas trop où le feu a pris. Mais en tout état de cause, que le feu soit parti de Lubrizol, hein, à l'extérieur du hangar A5 ou pas, voire de son voisin Normandie Logistique, voire d'ailleurs, ça n'a pas tellement d'importance. Les règles qui doivent s'appliquer dans l'industrie, d'abord le code du travail et les prescriptions du code de l'environnement, en tout cas pour Lubrizol qui est classé chez Véso, doivent faire que quand il y a un début d'incendie, l'incendie ne doit pas sortir des frontières de l'entreprise. Et si l'incendie a lieu à l'extérieur, l'incendie ne doit pas rentrer dans l'entreprise. Bon. Et bien là, le feu, on ne sait pas d'où il est parti, on le saura, mais en toute autre cause, il est sorti de Lubrizol. Donc ça, Lubrizol, hein, ce qui sera mis en évidence dans le dossier pénal, c'est qu'il y aura plein d'infractions côté Lubrizol et qu'il y a plein d'infractions côté Normandie Logistique. Bon, ce qui est un peu, j'allais dire surprenant, non, le mot est mal choisi. Hein, maintenant, l'État, par le biais du DREAL, M. Berg, hein, nous dit que Normandie Logistique est en infraction, mais la DREAL le sait depuis des années. La question, c'est pourquoi la DREAL, et on ne parle pas des fonctionnaires de la DREAL, on parle de la direction de la DREAL, on parle de la préfecture, on parle du ministère de l'Environnement, du ministère du Travail. On sait que les industriels ne respectent pas la réglementation, qui mettent en jeu la vie des travailleurs et des populations. Mais comme il y a toujours des enjeux économiques, on ne prend pas les mesures qui s'imposent pour forcer les industriels à respecter la réglementation. Et preuve en est, sur le précédent à Lubrizol, c'est le fameux nuage de mercaptan en 2013. D'abord, l'État, par le biais du parquet, a décidé de poursuivre Lubrizol sur une simple infraction, ce qu'on appelle de police, alors qu'ils auraient dû être poursuivis pour mise en danger d'autrui, dont les peines auraient pu être, y compris de la prison et une peine d'amende bien supérieure. L'État a fait un choix, qui est un choix politique, de les poursuivre sur une simple infraction de quatrième classe, qui a amené à une simple condamnation de 4 000 euros. Donc pour M. Schmur, pour M. Buffett, 4 000 euros, c'est de l'argent de poche. Bon, quand les industriels seront comme les chauffeurs sur l'autoroute, ou ceux qui risqueront les mêmes peines de prison ou des peines exemplaires, peut-être que les industriels arrêteront de jouer avec nos vies.
Une question très rapide.
Ouais.
Étant de la CGT, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Emmanuel Macron qui va peut-être accessoirement bientôt passer à Rouen ?
Accessoirement qu'il passe à Rouen, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut qu'il revienne sur toutes les politiques de déréglementation du Code du travail qui ont déjà eu lieu, notamment la suppression des CHSCT, qui suspendent immédiatement deux projets extrêmement graves. D'une part, le projet autour du rapport Lecoq qui vise encore à simplifier la réglementation en termes de santé-sécurité dans les entreprises, et le rapport Gasbarian qui est sorti trois jours avant l'accident, un rapport parlementaire, et qui propose là encore de faciliter la réglementation pour les industriels.
Et après donc ce grand reportage sur le collectif de Lubrizol, encore manifestation, et bien évidemment il y en aura d'autres et peut-être qu'on y sera, pourquoi pas. À part ça justement, ce que Lubrizol a gâché la fête, la foire Saint-Romain, nous sommes allés voir dans les restaurants. Est-ce que les Rouennais ont-ils encore confiance ? Eh bien c'est le reportage qu'on va vous passer, qu'on a fait justement avec Baptiste.
Toute la région, ouais, on n'utilise uniquement que des produits locaux et c'est ce qui fait un petit peu notre force en même temps. Et c'est important de savoir qu'il n'y a que des produits frais. Il n'y a pas de surgelés, à part les glaces. Et ce n'est pas des surgelés, c'est des glaces. Sinon, que des produits frais, absolument.
Et à cause de l'incendie de Lubrizol qui a cassé un petit peu les agriculteurs locaux, est-ce que ça a détruit un petit peu cette force justement du produit local, du circuit direct, comme on l'appelle ?
Certainement qu'il va y avoir un impact là-dessus, certainement. Pour le moment, on ne peut rien dire, ça fait que deux jours que la foire est ouverte, donc on ne peut rien dire. Mais bon, pour le moment, on est dans les spectatives. Hein. On attend tranquillement de voir ce que ça va donner. Apparemment, les gens arrivent normalement. Regardez, ça rentre. Allez-y, bienvenue, bon appétit, bonne soirée. Tout le monde rentre en même temps.
Oui.
Donc nous, on a notre clientèle qui est là, bien sûr. On a nos habitués qui reviennent, qui viennent et qui reviennent. Et qui reviennent encore, hein, comme dans la chanson. Et ils reviendront toujours. Pour tout, comme il vous a dit le monsieur tout à l'heure, pour l'accueil, pour le service, pour la bonne nourriture et tous les produits
la
locaux.
Convivialité,
et la convivialité, voilà, tout ça, ça compte. C'est un ensemble.
Vous et les autres forains, quand vous êtes arrivés sur Rouen, forcément, vous avez appris ce qui s'était passé. Est-ce que vous avez eu des difficultés à cause des odeurs, de construire, à cause des émanations, des étourdissements, etc.
Disons, on a eu quelques incertitudes au départ. On était un petit peu dans l'expectative. Je reconnais qu'on a hésité. On a hésité. On a eu des points positifs du côté de la mairie qui nous a dit que tout va bien, tout allait bien. Donc on s'est laissé tenter.
Vous avez cru la mairie ?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, parce que quand même, c'est quand même la mairie. C'est pas n'importe qui vient nous annoncer les bonnes nouvelles ou les mauvaises.
Oui, tout à fait. Oui, on achète à côté, oui.
Quelle sorte de produits locaux ?
Du jarret, du porcelet, de la viande, bœuf et saucisses, voilà.
Et par rapport à l'incendie du Lubrizol qui a touché Rouen, est-ce que vous avez eu des difficultés à avoir cette viande ?
Oui.
Et du coup, comment vous avez fait ?
Ah, ça, c'est autre chose.
Autre chose ?
Ouais.
Vous avez dû taper à côté, je suppose, enfin pas...
Pas sur la région. La viande, on a été chercher, je crois, à Caen, et le bœuf, c'est où ? C'est à Vincennes, à Versailles.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est assez loin, ça vous a coûté plus cher, non, d'importer cette viande ?
Oui, tout à fait.
Et là, en ce début de fête foraine, vous avez beaucoup de clientèle, les gens ont confiance de consommer la viande qui, a priori, peut être contaminé ou tout va bien, ou vous avez autant de gens que d'habitude?
Venez voir déjà. Tout le monde prend du viande, donc je pense que ça va aller. Mm-hmm. Donc ouais, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Maintenant, les Rouennais, ils n'ont pas peur, donc ils sortent, ils mangent. Mm-hmm. Ils attendent ça depuis chaque année, donc c'est normal qu'ils viennent.
Donc les gens ont confiance et ils reprennent leurs petites habitudes et au final, c'est comme si que rien ne s'était passé.
Ah, je ne peux pas me permettre de dire ça, mais je pense que c'est ça, ouais. Mm. Ouais.
Et justement, nous avons récolté un peu les critiques que font les lecteurs s'expriment sur le Tendance Ouest. Donc je vous lis une petite citation. J'ai voulu emmener mes enfants cette année, mais avec les odeurs, je ne suis pas sûr d'y aller. C'est vraiment dommage. Et oui, parce que c'est un peu ce que les Rouennais attendent chaque année, hein, cette force à Romain. Cette année, nous irons pas, et j'en connais beaucoup qui n'iront pas non plus. Dernière chose aussi, malheureusement, cette année, nous n'irons pas. L'odeur est vraiment désagréable. Bonne balade aux autres. Voilà pour cette revue de presse. On passe tout de suite au sujet de la une. Nous allons. Vas-y, Baptiste, fais-nous la petite.
Ouais, merci Alexandre, en tout cas, pour cette revue de presse qui était complète, qui était très complète, avec de beaux reportages. Et tout de suite, on se retrouve pour le premier sujet débat.
Faisons bloc et ne nous divisons pas. Pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitable avec le communautarisme.
Quelque chose d'extrémiste et de regrettable, puisqu'il n'y avait pas de règles qui interdisaient le port du voile dans le Conseil régional d'une part, et que ce n'est pas par des interpellations de ce type devant les enfants que l'on résout un quelconque problème.
Pardon de vous le dire, parce que vous voudriez me mettre le singe sur l'épaule, je crois qu'il est sur le vôtre. Sur la vôtre.
La laïcité est-elle non respectée en France? Telle est la question que nous allons nous poser aujourd'hui pour ce premier sujet débat. Mmh. On a invité, donc nous avons une sociologue, donc Christine. Bonjour à toi. Et donc un historien de religion, Mansour. Bonjour à vous deux. Donc déjà, je voudrais savoir, pour commencer, donc...
On commence un peu par les faits déjà, faut expliquer aux gens un petit peu.
Alors oui, mais justement, là, je voudrais juste commencer par le commencement déjà. Mm-hmm. Explique-nous, Christine et toi, Mansour, ce qu'est une sociologue et toi, un historien de religion.
Ah oui. Okay.
Mais une sociologue, justement, c'est l'étude, c'est l'étude de la société, hein. Donc on étudie la société... dans tous ces états, hein, et on essaie d'avoir justement un regard objectif sur la société. Voilà.
D'accord, et toi Mansour ?
Donc l'historien des religions étudie en fait le phénomène religieux au point de vue historique, comment ça émerge et comment ça se déploie à travers le temps et son évolution.
D'accord, voilà, si jamais vous ne savez pas ce que c'était, au moins maintenant vous le savez. Donc effectivement Alexandre, commençons par le commencement, excusez-moi.
Ah oui, parce que tout a un commencement et tout a... Bref. On va un peu déblatérer sur ce sujet qui énerve de plus en plus les gens, qui divise malheureusement cette société. Il faut savoir que c'est plus d'un Français sur deux qui pense que l'islam n'est pas compatible avec la République française d'après un sondage de l'IFOP. 61% des Français pensent que la religion musulmane est incompatible avec les valeurs de la République, contre 39% non. Alors, pour tout remettre en contexte, c'était à Dijon, le 11 octobre, alors que voilà, tout a commencé tranquillement, il y avait une assemblée de politiques. Et tout d'un coup, une femme voilée qui accompagnait des élèves, des enfants, tout se passait bien. Tout d'un coup, monsieur Julien Oudoul commence à interpeller cette dame voilée. « Quittez l'assemblée ou au moins retirez votre voile, c'est une salle républicaine ici ». Vous n'avez pas à être comme ça. Suite à ces phrases qui ont choqué la dame, d'ailleurs avec une célèbre photo qui a été reprise partout dans le monde entier, deux suites de plaintes ont été posées. Une pour Julien Oudoul et en tout cas, on verra la suite s'il y a des procès, etc. Mais au moins, voilà, vous savez ce qui s'est passé concrètement. Alors moi, j'ai envie de me tourner directement à notre sociologue. Pourquoi en fait on a ce débat en fait? Pourquoi ce débat?
Déjà, tu avais soulevé si justement les valeurs de la République sont compatibles avec les valeurs de l'islam.
Oui.
Moi, je dirais que oui, les valeurs de l'islam sont compatibles avec les valeurs républicaines. Parce que du temps du prophète, quand le prophète était à Médine, il y avait différentes communautés. Et justement, ils respectaient les différentes communautés qu'il y avait. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. Et ils respectaient aussi, au nom du Coran, Le Coran, c'est respecter aussi la créature divine. Donc, c'est respecter la vie, respecter les animaux, les êtres humains. Et donc, c'est respecter les êtres malgré leurs différences. Et le prophète à Médine respectait la pratique des autres religions monothéistes. Voilà, au niveau de la définition, je dirai ça plus tard, je laisse le soin à
Monsieur Moussour, oui. Donc, alors, est-ce qu'on n'en fait pas trop déjà? Et pourquoi ce que j'ai dit, pourquoi ça a tourné autour d'un débat sur le voile? Pourquoi tout d'un coup, pouf, on a changé de direction?
Comme si on cristallisait tout sur ce tissu. En fait, ça doit être sur plusieurs facteurs. Bon, déjà, c'est un membre du Rassemblement National, ex-Front National. Apparemment, il n'avait rien d'autre à faire que de dire ça. Mmh. Bon, lui-même a d'autres torts, mais ça, on en parlera ailleurs. Mmh. En fait, le fait qu'on cristallise ça sur, en particulier, les femmes voilées, il y a toujours le mot « femme » autour, et de montrer, en fait, l'islam. Donc, en fait, apparemment, certains cherchent soit un ennemi ou un déclencheur ou un responsable de tout ce qui pourrait leur arriver ou une opportunité politique. Vu que, de toute façon, c'est un sujet qui fait vendre depuis 2001. On avait toutes les unes depuis là-dessus. Donc, le fait que ça cristallise et que ça montre une communauté, entre guillemets, ciblée, est-ce que, par exemple, pour quelqu'un du Rassemblement National, ne cacherait pas en réalité après, ça c'est une vision très personnelle, plus historique d'ailleurs, ça cacherait pas en fait en réalité un racisme plus ethnicisé en réalité, sous couvert de dire que déjà c'est un lieu public, et donc jusqu'à preuve du contraire, la loi sur la laïcité n'interdit aucun signe religieux sur la loi.
Pour nos auditeurs, oui, justement, par rapport à ce que vous dites, il avait tort, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que ces plaintes sont tout à fait recevables, ces deux plaintes, puisque cette dame avait tous ses droits d'avoir ce voile. Donc déjà, c'est faux ce qu'il a dit le député.
La tenue vestimentaire, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas légiférée en France.
Oui.
Sinon, comme on avait dit en aparté, ça conviendrait à une problématique qui est beaucoup plus grave. Si on commence à légiférer sur la tenue vestimentaire de tel ou tel type de personne ou telle communauté, on installerait directement les libertés individuelles de chacun. Et là, on pourrait plus dire que la France est un pays de droit. Ça deviendrait quasiment une espèce de dictature sur la tenue vestimentaire. Donc demain, je peux interdire les punks parce que leur chevelure bleue ne plaît pas. Ou parce qu'ils sont en marge de la société.
Oui, parfois, ça gêne aussi, ça. C'est vrai qu'on parle du voile, mais il y a les Iroquois, les Rastaman, tout ce que tu veux. C'est vrai que ça peut choquer certaines personnes. C'est vrai, dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu extravagant, qui sort du lot, un homme qui n'est pas en costard-cravate, ça y est, oups, ça choque.
Mansour a raison. Au nom de la liberté, il faut respecter la liberté de chacun. Et moi, je vais juste donner une définition des laïcités, qui a été justement soulevé par Jean Bobéro et Micheline Milo dans les laïcités sans frontières. Donc les laïcités ont toutes en commun le fait justement d'articuler de façon plus ou moins harmonieuse quatre principes. Donc il y a deux principes qui portent sur la finalité, c'est la garantie de la liberté de conscience, l'égalité et la non-discrimination de chaque individu. Les deux autres concernent les moyens, c'est la séparation du politique et du religieux, et la neutralité de l'État à l'égard des différentes croyances. Et selon ces auteurs, il y a deux groupes justement où il y aurait des difficultés de manière consciente et inconsciente à respecter ce principe d'égalité et de non-discrimination. Le premier groupe, on pourrait dire, en France, c'est les laïcars purs, qui justement accentuent sur les moyens, c'est-à-dire la séparation et la neutralité au risque de vouloir émanciper tout le monde de la religion. Et puis, il y a aussi l'autre groupe où justement on réduit la laïcité à la seule finalité, c'est la liberté de conscience, où on tire vers une interprétation plutôt réductrice, en la comprenant avant tout comme une liberté religieuse et en minorant justement les moyens de permettre cette liberté pour tous. Et ce qui est important, ce que Mansour disait, c'est la liberté pour tous. On peut avoir une tenue vestimentaire différente. Ce qui soude un pays, c'est des valeurs communes, et les valeurs de la République, c'est les valeurs justement d'égalité, de liberté. Voilà.
Alors je vais être très direct justement par rapport à ce que vous avez dit. Faut-il interdire, donc revenir sur la loi de 1905, laïcité en France, donc plus de discrétion par rapport au voile? Faut-il faire ça?
Dans quel but exactement? Voilà.
Je sais pas.
Telle est la question.
Voilà. Parce que le problème, c'est revenir sur cette loi qui est déjà en réalité, quand on la relit à l'origine, elle est très bien cadrée. D'ailleurs, il y a même certains articles que moi je trouve intéressants comme.
Elle est aussi assez paradoxale parce que, comme vous l'avez dit, madame la sociologue, très bien, c'est-à-dire qu'on a tous un droit d'exprimer ce que l'on veut, mais sans trop le montrer. Aussi. C'est ça que cette loi de 1905 nous dit. Donc, en fait, qu'on peut
dans l'absolu,
accessoirement revenir dessus.
Si on l'interprète comme ça, la loi en fait interdit quasiment le prosélytisme. Elle le cadre. En fait, la loi 1905, en réalité, c'est un cadre. Hein. C'est plus une loi qui cadre qu'autre chose. D'ailleurs, elle cadre aussi bien le politique, hein, parce que le politique ne doit pas se mêler de religion, normalement. Sauf en Alsace-Lorraine, qui sont toujours sous le concordat de 1901. C'est un cas à part. Parce que là-bas, les cultes sont financés par les régions. Ce qui n'est pas le cas de tout le reste de la France. Normalement, les cultes ne doivent pas être financés ni par les subventions, ni par quoi que ce soit. Ça, je dirais, c'est la loi, c'est la théorie. En pratique, c'est peut-être un petit peu différent sur les droits.
Culte, oui, on pourra en parler, c'est vrai. Voilà.
Le fait de l'interdire et de vraiment vouloir légiférer, bon, certains, je pense qu'ils seront très contents, mais ça mettrait en danger, en fait, toutes les lois sur les libertés individuelles. Comme je vous disais, on pourra tout interdire du jour au lendemain. Et en fait, le problème, c'est que... Alors, il y a deux niveaux de débat, on va dire. Il y a le premier, on pointe un épiphénomène qui est visible, pas dire qu'il n'existe pas, c'est pas pareil. Et en même temps, on le pointe parfois pour de bonnes raisons, entre guillemets, et parfois pour de très mauvaises raisons. Les bonnes raisons, on va dire que certaines femmes n'ont pas choisi de le porter sous influence ou autre chose. Donc là, d'accord, on peut en discuter. Là, on peut voir les origines, ce qui s'est passé, quels sont les systèmes d'oppression qui ont pu être mis en place, consciemment ou inconsciemment, aussi bien les femmes entre elles que les hommes sur les femmes, ou voilà. Et le deuxième, c'est, est-ce que ce serait pas en réalité la stratégie du fumigène, c'est-à-dire, je vous lance une info, ouais. On va dire que, c'est pas tous les journalistes, mais là je vais faire exprès de généraliser, on a acheté un bouffe-biftec et tout le monde s'est jeté dessus, pendant ce temps-là, les gouvernants, les administrations font un peu ce qu'elles veulent derrière notre dos. Bon, comme on est focalisé sur un point, bah, le voleur peut voler dans votre poche pendant ce temps-là.
Par rapport justement au voile, enfin en tant que femme, je pense que Mansour a raison, c'est un épiphénomène
Qui reste visible.
Le problème du voile, moi, enfin, l'habit ne fait pas le moine, hein. On peut très bien développer sa spiritualité et ne pas porter de voile, hein, comme on peut très bien respecter quelqu'un une femme qui veut porter le voile. Au nom de sa spiritualité. Ce qui est dérangeant, c'est le contrôle dans les quartiers, justement, on va contrôler la femme de plus en plus, enfin, au niveau du voile, si elle le porte ou elle le porte pas. Le danger, c'est justement le contrôle des hommes sur les femmes par rapport au voile. Et ça peut être aussi un danger.
Parce que
et être
le voile n'est pas obligatoire, hein, dans la religion musulmane.
Non, elle n'est pas obligatoire.
Alors, j'ai pas lu tout le Coran, mais passage qui le stipule.
Non, il y a une thèse justement à l'université Al-Azhar du Caire qui démontre que le voile est justement un fait coutumier et non pas c'est pas mentionné dans le Coran.
Donc ce qu'il faudrait plus dénoncer en fin de compte, c'est plus les hommes qui obligent leurs femmes à porter le voile en fait. Ce serait ça qui serait plus dénonçable.
Je pense qu'il ne faut pas aussi... On est quand même on a des valeurs ici en France. Et les valeurs, c'est quand même le respect du droit humain, l'égalité homme-femme. Et au nom des principes du respect de l'humain, la femme aussi est libre aussi d'exprimer sa féminité. Et moi, ce qui me dérange au travers du voile, autant on peut être foncièrement spirituel et porter un voile pour prier, mais ce qui me dérange, c'est justement réfréner la féminité ou la renfermer sous couvert d'un voile, parce que c'est comme si que la femme était satanisée, et ça me dérange.
Ça, c'est plus du point de vue de certains théologiens.
Oui.
Donc, comme elle a dit, en fait, dans les sociétés en fait, arabes qui étaient très coutumières, en fait, hein. Donc c'est une vieille coutume qui est restée. Comme je disais, il n'y a pas que les hommes. Il y a les femmes entre elles qui, en fait, du par leur coutume, le fait d'être dans un système comme ça, fait qu'elles inculquent ça à leurs filles. et à leur petite fille, donc elles le portent, plus ou moins consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être pas forcément corrigé, mais peut-être par l'éducation réelle peut être corrigé. Après tout, le fait que, par exemple, quand on dit l'islam est-il compatible avec la République, moi je voudrais juste rappeler quelque chose au 19e siècle. Philippe Grenier, élu et député français, il était musulman en fait. C'est le premier musulman à être élu comme député. Donc vous retrouvez ça dans les revues de presse de l'époque, c'est assez intéressant. Donc lui s'était converti en Algérie, tout ça. Et lui a défendu cette liberté, mais en s'habillant comme un bédouin algérien. Mais à l'époque, on lui avait même, pour vous dire que c'était vraiment... J'ai l'impression que parfois, sur certaines époques, on passe d'une pensée à une mentalité à une autre. À l'époque, comme il faisait ses ablutions dans la fontaine, on lui a attribué une salle pour qu'il fasse sa prière et tout ça. Et tout ça dans le respect de l'individu. Et pas dans... on n'en a pas fait de polémique. Bon, les journalistes se sont un peu moqués de lui en faisant des caricatures. Ça, c'était normal, c'est le jeu. Là, aujourd'hui, on est arrivé quasiment à l'inverse. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt en discriminant. En sachant que les femmes qui, certaines, hein, pas toutes, qui ont été jusqu'à porter le niqab et autres, elles-mêmes se discriminent automatiquement en se marginalisant toutes seules. Ou sous la pression d'un tel ou un tel. C'est là où, en fait, ça rentre en conflit avec les valeurs républicaines et de liberté. C'est quand la personne elle-même, si vous la pointez du doigt, de toute façon, la plupart, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un instinct quasi humain et sociologique, que ce qu'il pourra confirmer, c'est que les gens se renferment dans... dans ça, et se victimisent, donc ils vont continuer à le porter, continuer même à aller dans une autre dérive peut-être encore plus, plus marquante, oui, donc ils s'auto-marginalisent, donc en fait ça devient un cercle vicieux.
Donc en fait le but c'est de s'isoler en fait.
Bah en fait si vous pointez quelqu'un du doigt, soit il se défend mais il ne s'isole pas, ou soit alors il va,
identitaire, hein.
Voilà, il va plus le revendiquer, donc il va s'isoler encore plus de la société, donc il va s'auto, en fait il va se mettre en position de se faire encore plus marginaliser et encore plus pointer du doigt. Donc encore plus stigmatisé, donc encore en fait on va rentrer dans un cercle vicieux qui va être quasi sans fin.
Alors, d'accord, je vous remercie pour ce reportage. Alexandre, as-tu une dernière question?
Car on va stopper là. Baptiste,
moi personnellement j'en ai plus, tout a été dit.
D'accord.
Si moi je veux soulever quelque chose de très important parce que j'ai travaillé dans le cadre de mes recherches aussi donc dans des sociétés musulmanes, hein, donc dans des pays à majorité musulmans, et la société aussi. La société peut contrôler la femme, peut la renfermer, peut sous couvert justement qu'elle n'est pas habillée correctement. Et ici en France, on a quand même une certaine liberté. On a civilisé nos rapports entre hommes et femmes, et donc ça, c'est important. Le voile me dérange pas. À partir du moment où il y a une priorité spirituelle derrière. Mais le voile qui est mis de manière contrainte, voilà, c'est ça.
Mais justement, quand on fait bien attention, quand les débats tournent, enfin, on tourne souvent, on parle des religions, mais dès qu'il y a un problème en France, genre des attentats, tout ça, tout de suite, on se tourne vers les religions. Alors, est-ce que ce n'est pas une espèce d'hypocrisie de la part du gouvernement et même des médias, j'ai envie de dire, en règle générale? Alors que le problème sous-jacent, est-ce qu'il n'est pas social, en fait?
Moi, je dirais que, avant tout d'être musulman, on est avant citoyen français. Oui. Pour moi, on est citoyen français et après musulman. Et non pas le contraire. On n'est pas citoyen, on n'est pas musulman et après citoyen français. Et le citoyen français, on a des valeurs communes, c'est les valeurs de la République, l'égalité, la liberté. Et on doit respecter la différence de chacun. Donc on doit respecter la mère qui va accompagner son enfant, si elle a envie de porter le voile ou pas, c'est pas un problème, c'est un faux problème pour moi.
Aujourd'hui dans le monde, la religion musulmane, est-ce qu'elle est en danger?
En danger par rapport à quoi? Par rapport à son intérieur?
Bah, par rapport à tout ce qui se passe.
En fait, le problème, c'est pas la religion, c'est ce que les individus en font. Parce que, par exemple, comme tu parlais des attentats et autres, qui a dit quoi et comment il l'a dit, c'est comment on interprète les faits. Parce que si je prends n'importe quel livre et que je le lis de but en blanc, je vous promets qu'on va commettre un massacre génocidaire mondial. Hein. Ça dépend quel texte on prend et comment on l'interprète. Mais des gens sont, en fait, comme tu disais que c'était sociétal, oui, parce qu'il y a des gens qui ont été marginalisés ou qui se sont marginalisés. Il y a des ados, entre guillemets, des ados et des jeunes adultes qui ne sont pas structurés. au niveau de leur existence, où leurs parents ont failli quelque part et ça a créé des failles. Et en fait, ils ont besoin d'un cadre. Alors parfois, toutes les dérives sectaires, et celle dont on parle le plus, c'est l'islamisme radical, entre guillemets. Et ben en fait, ça les cadre. Ça leur donne un cadre et, plus grave encore, ça leur donne un but. Parce que vous êtes des ados, vous le savez, la plupart n'ont pas vraiment de but dans la vie. Ou alors, ils savent pas trop où ils vont encore. Et si vous avez quelqu'un qui arrive, ou une idéologie, ou un cadre très structurant qui vous dit, voilà, ton but, ça va être ça, 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 ta vie va être gérée de telle et telle et telle façon, il y en a, ça les conforte. Ils disent, voilà, ma vie, elle est réglée. Et ils n'iront pas plus loin.
Ils sont dans une... Enfin, ils recherchent une certaine sécurité, un confort, et appartenir, faire partie, justement, d'une identité. D'une identité, hein. D'un groupe d'appartenance. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi, en tant que tu es un individu qui doit avoir aussi son libre arbitre. Hein, et même, tu peux appartenir à un groupe, hein, mais il faut aussi toi-même avoir tes propres opinions. Et c'est ça qui est important. L'école, c'est justement garantir le libre arbitre, hein, pouvoir ne pas avoir une pensée unique. Hein, et c'est ça qu'on essaie de préserver quand on veut justement interdire tout signe religieux à l'école.
Aussi correctement les écrits sacrés aussi.
Oui, puis la
déjà
loi.
Les lire.
Oui, puis la loi elle-même.
Avant de les revendiquer.
Aussi la loi aussi. Oui. On doit revoir.
D'accord. On vous remercie pour toutes ces réponses. Tout ça, c'était très intéressant. Donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à vous partager vos idées. La laïcité est-elle non respectée en France? Réagissez avec notre Facebook sur YouTube b.a.ba tout en majuscule. Merci pour vos réponses, Mansour et Christine. Donc tout de suite, on va passer à la chronique New Technology, mais avant, nous allons écouter Tahiro, Imposteur.
Et plus tu parles, et plus ça sonne faux, vent, ville. J't'entends te vanter de ce que tu fais de là-haut. Tu vends du vide. Et plus tu mens, et plus ça sent le faux vent vide. T'étais en bas comme nous, mais aujourd'hui tu es en haut. Vent du yeah. Seul face à ton miroir, tu n'es plus qu'un imposteur. Du faux, du vent, du vide. Que tu réclames, es-tu à la hauteur? Si de là-haut tu vends du vide, yeah. Ce que tu promets à tout le monde et à toi-même, du vent, du vide. Ouais. Pourtant tu sais que l'on récolte ce que l'on sème, du vent, du vide. Où est-ce que tu vas chercher tout ce négatif? T'as gardé quelque chose de tellement primitif. Est-ce que tu réalises? La peur te paralyse. T'isoler te prive en fait du paradis. Où sont tes rêves? Où sont tes valeurs? Où en es-tu de ce que tu t'étais dit? Plus tu en as, plus tu en veux. Prisonnier de ta mégalomanie, ton égo te manipule, ta raison capitule. Ne vois-tu pas que tu brûles à petit feu? À petit feu, à petit feu. À petit feu. Seul face à ton miroir, tu n'es plus qu'un imposteur. Du faux, du vent, du vide. De ce que tu réclames, es-tu à la hauteur? Si de là-haut tu vends du vide. Ce que tu promets à tout le monde et à toi-même. Du faux, du vent, du vide. Pourtant tu sais que l'on récolte ce que l'on sème. Personne n'a qui parlait de ton argent. Tout ce qui avait du sens n'est plus que néant à présent. Tout ce que tu veux maintenant, c'est ce que tu rejetais avant. Face à ton reflet, face à toi, face à ce que tu es vraiment. Face à ton regard sur toi-même, te vois-tu comme un géant. T'as tellement fait de carnage. Pour toi c'est l'enfer. Que t'en récupères le karma. Aucun respect pour les gens. Rien de vrai que des blabla. Normal que t'aies peur. T'es tellement loin de ce que tu crois. Seul face à ton miroir, tu n'es plus qu'un imposteur. Du faux, du vent, du vide. De ce que tu réclames, es-tu à la hauteur?
Technologic. 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 Technologic.
New Technology avec Baptiste.
Oui, tout de suite la chronique New Technology. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Donc, de trois choses. D'abord, d'un nouveau jeu qui est sorti pour les fans de manga et de jeux vidéo. Ensuite, de la PGW, donc, c'est-à-dire Paris Games Week, qui va se passer ce week-end. Donc, du 30 octobre au 3 novembre. Et donc, on va parler aussi de youtubeurs, humour, détente, si vous avez envie de chiller de temps en temps, voilà. Pour le fun, voilà, des youtubeurs assez drôles. Donc tout d'abord, fan de manga de jeux vidéo, Saint Seiya Night of the Zodiac, désolé pour la prononciation. Donc, c'est le jeu inspiré du manga Les Chevaliers du Zodiac. Donc, pour les fans de manga, c'est un rêve, évidemment. Clairement, ils peuvent revivre l'histoire en jouant. Et pour les fans de jeux vidéo, si vous avez envie de vous plonger dans les mangas, vous pouvez très bien jouer à ce jeu. Alors pourquoi ? Vous allez dire parce que c'est un jeu, ça ne retranscrit pas très bien l'histoire. Si justement, c'est le jeu officiel vraiment qui a été choisi par le développeur des mangas du Chevalier du Zodiac. Et donc, ils ont repris exactement l'histoire parfaitement. Ils l'ont retranscrit parfaitement. Et donc, le jeu est accompagné donc de gameplay donc vraiment incroyable, je les ai vus par moi-même, de musique originale, donc c'est-à-dire c'est les musiques originales des Chevaliers du Zodiac et de vrais doubleurs japonais des Chevaliers du Zodiac. Donc elle permet de redécouvrir l'histoire si vous avez envie de vous lancer sans lire mais en jouant au jeu vidéo. Donc c'est vraiment un moyen donc pour ceux qui veulent redécouvrir l'histoire ou ceux qui veulent la découvrir de s'y plonger dedans. Donc c'est un jeu de stratégie. Y a un très bon mode solo et aussi possibilité de combattre également donc entre potes, voilà, contre des boss. Et donc le jeu, c'est un jeu mobile. Voilà. Ensuite, pour la PGW, donc la Paris Games Week. Donc cette année, comme je l'ai dit, elle est du 30 octobre au 3 novembre. Moi, elle n'est pas passée quand je parle, mais pour vous, elle est passée. Donc en gros, la PGW, pour ceux qui ne connaissent pas, elle consiste à réunir donc des personnalités connues et fans à un même lieu, tout ça accompagné dans le monde du jeu vidéo. Généralement, ce sont les youtubeurs gaming et les pro-gamers qui se retrouvent là-bas avec leurs fans. Donc toutes les animations sont déroulées autour des jeux vidéo. Donc il y a plusieurs parties, donc par exemple un stand pour Fortnite, Overwatch, etc. Donc avec des stands, des endroits pour chaque jeu vidéo. Il y a aussi de multiples animations avec de nombreux lots à gagner. Donc ça dépend où vous voulez aller pour voir votre personnalité que vous avez envie de voir. Et vous pouvez aussi éventuellement de temps en temps jouer avec les personnalités connues en jouant avec eux sur scène. Donc cette année se déroulera la 10e édition de la PGW. Donc à l'heure où je vous parle, elle est finie. Mais si jamais vous la connaissez pas, donc ça se passe à Paris, hein, comme dirait Paris Games Week. Et l'année prochaine, donc il y aura la 11e édition, comme chaque année maintenant, qui se déroule toujours vers les fins octobre. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes fan donc de jeux vidéo. Donc, et ensuite, pour finir, donc je vais vous citer quelques youtubeurs humour, voilà, quand de temps en temps, vous savez pas quoi faire, vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez juste envie de rigoler, de passer un bon moment, allez sur YouTube, et je vais vous citer quelques youtubeurs en même temps qui sont, je trouve, à mon goût, pas assez connus. Je vous avais déjà fait ça, parce que, voilà, et là, vraiment, ces youtubeurs, vraiment, on passerait juste un bon moment. Donc, tout d'abord, il y a Ivan BD. Bon, lui, il est déjà un peu connu, il a 1,42 million d'abonnés sur YouTube.
Bah, carrément, oui.
Oui, mais il est franchement, pour ce qu'il fait, c'est vraiment très qualitatif. Et je te dis, il mériterait beaucoup plus. Et vraiment, niveau détente, niveau humour, on est très bien. C'est une personne qui va se mettre dans la peau de plein de personnages avec un thème, par exemple à la gare, mais avec chaque type de personnage. Et donc, ça va être très drôle. Donc ensuite nous avons Nino Arial, lui ça va plus être chaque situation, par exemple au restaurant, quand t'as pas d'argent, quand t'es radin, etc. Voilà, et donc lui il va vraiment aussi, ça va être toujours dans ce délire de personnage avec chaque type. Et lui il a 443 000 abonnés sur YouTube et il est aussi, franchement on passe de très bons moments avec lui. Son copain Alex Escalin qui fait le même type de vidéo, donc, mais lui avec un peu moins de vues, 184 000 abonnés sur YouTube. Nous avons encore dans le même domaine toujours de vidéos, donc Franjo, donc 201 000 abonnés sur YouTube. Et ensuite pour finir, alors lui ça va plus être des sketchs, courts-métrages assez, donc lui c'est un jeune, donc vision ado. Donc ça va être donc Paul GZ, donc 291 000 abonnés sur YouTube. Et tous ces youtubeurs vraiment, c'est vraiment pour se taper une bonne barre de temps en temps pour se détendre. Donc je répète les noms, Ivan BD, Nino Arial, Alex Escalin, Franjo et Paul GZ. Voilà. N'hésitez pas à les noter et à aller les voir sur YouTube.
Merci Baptiste pour cette chronique New Technologies. Bien évidemment, à revoir sur les réseaux sociaux comme vous avez l'habitude de le faire et en podcast radiohdr.com. Merci de nous suivre tout de suite. Le sujet de débat sur cette fameuse pub qui a fait quand même 1000 saisies par rapport au CSA. On en parle tout de suite dans l'actu des ados.
Nous sommes toujours en compagnie donc d'Alexandre, de Christine et de Mansour. Donc nous allons principalement nous pencher sur la pub Nana, la dernière, donc qui s'intitule Vive la vulve. Vous l'avez tous vue.
Bah là on vient de la revisionner là, je sais pas.
Vous l'avez revisionnée. Alors.
Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Vous avez eu. Ah oui,
vous allez nous donner votre premier avis sur cette pub, vraiment votre premier avis là en l'ayant vue maintenant.
Là, maintenant,
qu'est-ce que vous a inspiré ? Qu'est-ce que là vient de vous inspirer ? Est-ce que vous pensez que c'est la discrimination envers les femmes ? Ça ne respecte pas les femmes ?
Bah déjà, je pense pas à ça. En le voyant la première fois là, c'était surprenant.
Surprenant, ouais. Par rapport à quoi ?
Bah on s'attend en fait quand les gens en parlent, quand on l'a pas vu, hein. On dit mais oui, il a vu, mais il présente quoi d'autre ? Mais en fait non, il présente rien d'autre. Si une femme avec un enfant, il y a plein de symboliques en fait dans cette pub. C'est aussi le lieu de naissance.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est l'origine du monde pour Courbet. Mais c'est très curieux cette pub en fait. On se demande si, comme on avait dit un peu en aparté, est-ce qu'elle est réellement volontaire ?
Oui, ou involontaire.
Ou alors c'est très maladroit. Parce que là, le message, il est un peu embrouillé. Moi, j'ai l'impression que c'est brouillé en fait.
C'est quand même la troisième pub qui choque de la part de Nana qui choque les gens.
Par rapport à cette pub, en tant que femme. Je sais pas qui est-ce qui a fait la pub, mais pour moi c'est un regard.
Ce sont des femmes.
Oui. C'est ce que je voulais savoir, si c'était des femmes ou des hommes.
Ah oui, non.
Et je trouve que c'est un peu réducteur au niveau de la femme. Pour moi, où est un peu de poésie, s'il vous plaît, dans les pubs. Un peu de poésie, si on veut réellement promouvoir, je sais pas, le bien-être de la femme au niveau de la serviette hygiénique par rapport au fait que ça soit pas allergique. Je sais pas, moi je ferais les petits oiseaux, la douceur, le côté air pur, enfin bon, où est la poésie dans tout ça ? Alors que là, c'est vraiment le côté brut de chez Décrofrage, où la femme, le sexe, la reproduction, l'appareil géniteur.
Et c'est un peu stigmatisant en fin de compte.
Voilà, c'est ça. Et moi, je perçois.
On met les femmes dans des cases, et moi, j'ai même certaines personnes qui nous disent bon, ben, on est juste ça, quoi.
Voilà, et je trouve que ça ne respecte pas. Ça ne respecte pas la femme en tant qu'être humain. Ça la réduit à justement l'appareil.
Alors, il faut savoir que certaines chaînes de télé ont arrêté de diffuser cette pub, car c'est quand même 1000 saisies du CSA. Le CSA trouve qu'il n'y a rien d'affligeant pour les femmes. 5 millions de téléspectateurs ont déjà vu cette pub. Et faut savoir que ce n'est pas la première, et d'après Nana, et ce n'est pas la dernière non plus. On a voulu justement montrer l'organe génital de la femme pour montrer justement que c'est une belle chose. Qu'est-ce que tu en penses, Baptiste ?
Alors moi, personnellement, mon avis, donc oui, effectivement, on va représenter que la vulve, donc qui signifierait la femme. Mais après, soit... parce que là, la vulve, dans la pub, moi, ce que je comprends, c'est qu'elle représente la femme. En tout genre, c'est-à-dire que la femme est représentée juste par une vulve.
Oui, que par ça.
Que par l'organe donc sexuel. Donc, en vrai, ça peut être choquant. Je peux comprendre que certaines personnes peuvent être choquantes, mais il ne faut pas oublier un truc principal, c'est que c'est une pub pour Nana. Et moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que Nana, on va dire, ils se sont pas pris maladroitement en disant nos serviettes, c'est pour justement vos vulves. Moi, je pense que c'est juste ça, en fait, je pense que c'était juste un message. Voilà, là, on voit quoi sur cette pub ? On voit que la vulve est représentée par un fruit, elle est représentée donc par l'argent, c'est principalement ces deux choses-là. Et donc justement, est-ce que ça ne serait pas représenté en mode le... Comment dire, est-ce que la serviette... je sais pas comment... Attends, j'essaie de retrouver mes mots, excusez-moi. En gros, la serviette représenterait en général la femme, mais dans tous ces milieux, dans tous ces domaines. Mmh. C'est-à-dire par là, c'est que moi, je pense pas qu'ils ont voulu faire ça en mode la femme, c'est une vulve. Mmh. Je pense pas qu'ils ont voulu faire ça. Ils ont été en femme, en mode la femme, elle a comme toutes les femmes. Enfin, vous le savez quoi, elle a des choses à tous les mois, voilà, et elle doit s'en occuper, mais dans son plein gré, dans sa vie. Moi, je pense qu'en fait, ça fait partie de la vie. C'est ça qu'ils ont voulu montrer par la
revendication avec les fuites urinaires, etc. C'est aussi, ça. D'autres choses comme ça.
Moi, je pense pas qu'ils ont voulu vraiment juger ça, mais juste ça fait partie de la vie. Mais ça fait partie de nos.
Il faut réfléchir aussi que c'est assez compliqué quand même de faire ce genre de pub, comme par exemple pour les préservatifs. Comment veux-tu faire une pub pour les préservatifs? Bon, on va pas tourner un film X non plus, mais faut bien montrer quelque chose. Ou dans ce cas-là, on fait pas de pub et on interdit les pubs de ce genre.
Après, oui, effectivement, comme tu dis, c'est une pub. Après, voilà, on connaît un peu tous les pubs. Les pubs ont tendance toujours à un petit peu éphémériser la chose, un petit peu en rajouter, à un peu partir sur des choses extrémistes à des moments. Et donc là, pour le coup, je pense que Nana, vraiment, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu vraiment dire, vous avez une vulve, et vraiment là, pour le coup, représenter la vulve et non le vagin, comme des fois on peut juste se penser. Vous avez une vulve, ça fait partie de vous. Vous devez vous en occuper, c'est votre vie, c'est à vous. Et donc, vraiment...
Vous vouliez réagir.
Donc, vraiment, oui, voilà, les pubs, les serviettes sont là pour moi.
Cette pub me dérange. Elle me dérange parce que c'est réducteur. On parle de vulve, hein, et alors la parole de la femme, hein, les impressions, parce que la vulve, et les impressions de confort, hein, c'est dans la tête, hein. C'est dans la tête. La tête, c'est quoi? C'est cette idée de liberté. Donc, moi, j'aurais exprimé justement le confort par la liberté dans la nature, courir, pouvoir faire des activités. Mais là, c'est complètement réducteur au sexe. Mmh. Et c'est ça qui me dérange. Voilà.
Donc, il faut interdire ce genre de pub pour les préservatifs ou pour les tampons, etc., ou les serviettes?
Il ne faut pas interdire la pub, mais le côté poétique, hein. C'est tout. Pourquoi justement le ramener au sexe, au côté vulgaire? Moi, c'est
peut-être
vulgaire.
Peut-être présenter, oui, le produit autrement.
Vulgaire,
après,
il
faut se rappeler
présenter
que
le produit autrement.
C'est des serviettes hygiéniques. C'est pas non plus... voilà.
Mais ma serviette hygiénique, elle est en 100% coton tous les mois. J'ai des sensations. Elle est douce, douce comme un petit poussin. Donc voilà,
pourquoi
le confort.
Pourquoi pas des femmes d'ailleurs, on l'avait fait dans certaines pubs. Hein, interviewer des femmes, comment trouvez-vous? Mais c'est pareil, mais c'est tellement facile, facile de choquer. Est-ce que dans notre société, en fait, on a... c'est un phénomène sociétaire aussi ça. Est-ce qu'on se choque de tout et de rien maintenant aujourd'hui? Il n'y a peut-être plus une certaine liberté d'expression, en fait. C'est peut-être ça aussi.
Oui, c'est important, la liberté d'expression.
Parce que si dit qu'on va montrer, représenter par différentes formes, une vulve, est-ce que, pourquoi ça choquerait directement? Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire « Ouais, mais justement, la femme, on la prend justement parce que là, on le montre comme une vulve, comme un objet sexuel, alors qu'avec un homme, jamais on montrerait l'appareil génital d'un homme. » Alors. Moi, personnellement...
Ça a été relaté plus d'une fois. Oui.
Je trouverai pas ça dérangeant non plus qu'on fasse la même chose avec un homme. Mais beaucoup de gens pensent qu'on le ferait pas. Parce que justement, dans notre société, la femme est un objet sexuel, mais l'homme, ça serait choquant. Ça ferait polémique. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Il y a un caractère sexuel au niveau visuel, hein, parce qu'on voit la vulve qui s'ouvre, qui se referme. Il n'y a pas ce message, justement, du confort de la serviette hygiénique. Avec comment la femme s'imagine en ayant cette serviette hygiénique très confortable, comment elle se l'imagine. Et moi, c'est ce qui me dérange dans cette pub, ce caractère sexuel où on ouvre, on ferme la vulve, c'est plutôt érotique. Ça n'a rien à voir avec le confort d'une serviette qu'on a tous les mois.
Oui, donc cette pub est à côté de la plaque pour vous. Totalement à côté de la plaque.
Je ne suis pas contre la liberté d'expression, mais il ne faut pas non plus oublier le message.
par rapport à la femme.
Oui, mais si cette...
La femme en tant qu'être humain.
Mais si cette liberté d'expression va stigmatiser une certaine communauté, ou voire même déranger certaines personnes, est-ce que c'est encore de la liberté d'expression? C'est ça la question aussi.
Et alors moi, si j'étais Gwyn, je dirais que j'aurais envie de lécher la vulve là. Parce qu'on ouvre, on ferme.
D'accord. Là, c'est parfait. Mon sourd, le mot de la fin.
On a encore du temps pour débattre. Ne vous inquiétez pas.
Vu que ce que Christine, en tant que femme, a dit, en fait, on peut se dire, oui, est-ce que c'est réellement volontaire, vu que c'est la troisième pub qui apparemment choque. À mon avis, c'est plus volontaire qu'involontaire. À mon avis, c'est un plus ou moins bien pensé. Peut-être maladroit sur certains aspects, mais à mon avis, elle plus ou moins bien pensé la pub. Déjà, on représente une mère avec un enfant. Donc la femme comme mère, dans les premières images. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les fameux petits portefeuilles là, qui ouvrent et qui se ferment. Bon, mère, argent, la femme est peut-être mercantile ou pas. En fait, le problème, c'est ça, c'est que la pub, elle n'est pas...
Oui, il y a peut-être des images subliminales aussi.
Elle est plus ambiguë sur certains aspects, hein, pas toute la pub en gros. Hormis le côté vulgaire, tout ça, il y a quand même des petites ambiguïtés qui sont insinueuses.
Mais moi, du coup, la question que je me poserais, c'est si c'est fait exprès, si vraiment les pubs nanas veulent pousser dans justement là-dedans. Moi, je me dis... Vous, toi, en tant que femme, Christine, si tu regardes cette pub, ça va pas te donner envie d'acheter ces serviettes, on est d'accord?
Ouais, t'as raison. Franchement, j'ai vraiment pas envie d'acheter. Oui, pas envie d'acheter parce que... Où est le rêve dans tout ça? Voilà.
Donc pourquoi il ferait ça, en fait? C'est-à-dire, moi, je vois pas pourquoi il ferait exprès de faire ça. Sachant,
un bad buzz.
Même si on parle, oui, mais on parle de.
Puis même le nom de la marque,
ça va faire un buzz.
Nana, déjà, rien que ça, c'est stigmatisant, moi, je trouve.
Oui, ça va faire un buzz, mais ensuite, les gens vont justement, ça va faire un buzz, mais les gens vont en être plutôt dégoûtés qu'ils vont dire, oh oui, je vais l'acheter parce que ça fait un buzz.
Oui, mais pendant ce temps-là, on a parlé d'eux.
Oui.
On a parlé d'eux.
Donc les gens aiment la merde pour toi, Baptiste.
Bah non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas donner envie d'acheter. Ça va faire un buzz, mais justement, ça va faire un buzz dans le mode, personne va vouloir en acheter. Pour moi, c'est ça. C'est pas logique pour eux, en fait. C'est pour ça, je pense pas que ça fasse exprès pour ça.
Au niveau économique, en fait, si tu réfléchis bien, c'est pas un secteur qui a besoin de beaucoup de pubs, en fait.
Bah non.
Concrètement. Parce que.
C'est quelque chose d'indispensable, c'est comme le papier.
Physiologiquement, c'est une obligation d'achat pour n'importe quelle femme.
Voilà.
Peu importe la marque qu'elle prend, le modèle qu'elle prend, c'est pas grave. Après, Nana s'est sûrement démarquée grâce à ça. Là, tout de suite, parce que les autres marques, on les a toutes oubliées d'un coup.
Oui, c'est sûr.
Effacé. Donc, c'est vrai. Si c'est pas volontaire, c'est très très maladroit, d'accord. Mais à mon avis, c'est volontaire et il y a certains aspects qui sont maladroits dans la pub. Et là, c'est vraiment c'est chercher le bad buzz en sachant qu'on fait scandale et ça marche. Comme Benetton à une époque.
Donc, c'était prémédité.
Oui. Ouais, comme à une époque, Benetton s'amusait à faire des pubs avec le prêtre ou tous les hommes qui sont à moitié nus. Ça marche, ça a marché.
Bien, vous pouvez réagir avec nous sur les réseaux sociaux comme d'habitude, de nous dire ce que vous en pensez. C'était le débat du jour. On se retrouve le mois prochain. Et bien évidemment, Chronique Ado tout de suite maintenant. C'est parti. Interviewé le 2 octobre, monsieur Luc Besson, réalisateur scénariste, homme d'affaires, vous le connaissez tous, il a formé sa propre production Lucasfilm, également ses propres écoles dans le sud de la France, et passé sur BFM devant Apolline de Malherbe. Malheureusement, le déroulement de cette interview s'est plutôt mal passé, elle dure 54 minutes et a particulièrement énervé les gens.
Accusé de viol, c'est un crime horrible. Dévastateur, probablement l'un des plus dévastateurs. Et quand on est accusé d'une chose pareille, on a des comptes à rendre à la justice et à personne d'autre. Ni aux médias, ni aux gens, ni à personne. À la justice. Voilà. Est venue la police, que j'étais à leur disposition. Ils m'ont donc convoqué 4 mois plus tard. Je les ai vus à 2 reprises. Ils m'ont posé toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. Ils ont aussi interrogé la plaignante. Je crois qu'ils l'ont vu 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. Ils nous ont aussi interrogés ensemble. Voilà, on a répondu à leurs questions. Voilà. Donc maintenant, la justice s'est exprimée. Et je peux enfin le faire. Et je voudrais m'exprimer. Voilà. C'est pour ça que je viens. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette affaire est un mensonge de A à Z. Pardon. Ma femme m'a sauvé. Parce que c'est la première fois que je vois l'amour.
Et voilà, vous sentez... C'est bon ? Et voilà, vous sentez l'émotion donc pour ce Luc Besson. Un juge a décidé de rouvrir l'enquête et beaucoup de gens donc du coup se sont énervés par l'ambiance tamisée et toute gentille. Donc avec la journaliste, on accorde trop de droits à ces gens qui sont bourrés de thunes, etc. Faites-vous votre avis. Enfin bref, expliquez-nous avec Baptiste. On va parler de la fête d'Halloween parce qu'on est quand même en vacances scolaires.
Et donc effectivement, on va parler de la fête d'Halloween que vous connaissez tous. Donc juge, je vais refaire un petit débrief. Halloween donc est une fête païenne qui provient des îles anglo-celtes. Elle se fait tous les ans le 31 octobre à la veille de la fête de la Toussaint le 1er novembre. Donc son nom signifie donc Halloween signifie la veille de tous les saints, ce qui paraît logique, et elle a commencé à être populaire vers les années 1920. Elle a surtout populaire et fêtée dans les pays anglophones comme l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, l'Irlande. Mais aussi, est-ce que vous connaissez moins connue la fête des morts? Donc c'est une fête pratiquée encore dans plusieurs religions qui consacrent un ou plusieurs jours fériés pour rendre hommage aux défunts. La plus connue, c'est celle au Mexique qui se déroule le 2 novembre, donc le lendemain de la Toussaint. Elle a pour but de réunir morts et vivants, donc à manger tous ensemble, danser et dormir dans les cimetières pour honorer les morts. Donc, et pour parler de tout ça, je vous conseille le film Coco, qui est un dessin animé, qui est un très beau résumé de la fête des morts.
Donc, oui, parce que oui, dans l'insolite, dernière chose avant de nous quitter, la vie d'artiste n'est pas toujours facile, tu le sais bien, Baptiste.
Oui,
totalement. Et parfois, donc, il faut s'entourer de professionnels pour déléguer certaines tâches. C'est ce que Snoop Dogg a fait en employant un rouleur de joint professionnel, pourquoi pas. Tenez-vous bien, cette personne est payée entre 40 et 50 000 dollars par an. Et la radio Moves nous a dit aussi que Monsieur Snoop Dogg avait dit donc dans une radio locale, c'est son métier, décrit Snoop Dogg, avant donc d'expliquer que ce gars qui roule ses trucs quoi, eh bien a des avantages en nature, donc déjà il est nourri, logé sur place et bien évidemment weed à volonté, pourquoi pas en tout cas pour Snoop Dogg. On le remercie pour cette belle info et on se retrouve le mois prochain. Merci de nous suivre.
C'était la fin de l'actu des ados, donc merci à Moussa, merci à Christine et merci à toi Alex. C'était une très bonne émission. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc b.a.ba tout en majuscule, donc sur YouTube et sur Facebook. Sur ce, on vous dit au mois prochain. Peace.
Merci, salut.